souvent, quand on pense start-up, on se dit, OK, mais il faut qu'ils aillent vite, qu'ils fassent vite une levée de fonds et qu'ils arrosent un peu partout, et même mondialement. Et là, toi, tu as une approche, et tu l'as dit, selon nos ressources.
Ouais.
Et c'est intéressant aussi de voir qu'on n'est pas tous des start-up avec des millions. Enfin, moi, mes entreprises ne sont pas des start-up qui ont levé des fonds. Et donc, on peut aussi construire de manière pérenne, ou en tout cas, y aller par étapes et se dire, OK, bon, bah là, moi, je veux valider ça auprès d'un secteur et concentrer mes efforts plutôt que de m'éparpiller partout.
Ouais.
Et dire, si ça marche sur cette niche et ce segment que c'est validé, là, je pourrais investir ou je pourrais aller passer à une levée de fonds. Ou autre.
Exactement.
Donc, et ça, c'est votre approche.
Tout à fait, en fait. D'accord. Donc, jusque-là, les levées de fonds, c'est pas pour tout de suite. Et puis, on veut aussi conserver pour l'instant un maximum d'indépendance. Donc, on y va par étapes. On valide progressivement chacune des étapes.
Bonjour à tous, c'est Julien Hatton et bienvenue dans Comment t'as fait, le podcast qui vous fait gagner des années d'expérience entrepreneuriale. Si vous êtes entrepreneur ou souhaitez le devenir et que vous cherchez à comprendre comment celles et ceux qui entreprennent ont fait, ce podcast est pour vous. C'est parti! Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Comment t'as fait, les rencontres d'entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir pour cet épisode spécial d'accueillir Gaëlle Chalère-Texier, cofondatrice et CEO de Dodi, la première solution SaaS de responsabilité sociétale des entreprises, spécialement dédiée à l'accompagnement RSE des petites entreprises. Salut Gaëlle.
Salut Julien, merci de m'accueillir.
Eh bien, avec grand plaisir. Gaëlle, on va parler ensemble de plusieurs sujets. Le premier, le RSE, évidemment, avec la solution Dodi que tu proposes suite au constat que les TPE, qui représentent 99% des entreprises en France, font face à des donneurs d'ordre de plus en plus exigeants sur la dimension RSE. On évoquera aussi ce qui t'a mené, toi, à l'entrepreneuriat, qui est diplômé donc, d'un master en communication RSE et qui t'était lancé dans un doctorat. Tu nous parleras de tout ça. On évoquera l'entrepreneuriat en famille aussi, puisque tu as cofondé Dodi avec ta sœur Amélie, après avoir été chargée de communication RSE et mère au foyer. On parlera de votre participation l'année dernière au concours Plug and Start organisé par la Technopole de l'Aube en Champagne et d'où vous en êtes, de votre ambition et comment vous comptez y arriver dans les prochaines années. T'es prête? On y va?
Allons-y, Julien.
Alors, avant de commencer, juste, je tiens à préciser que notre rencontre a été permise par la Technopole de l'Aube en Champagne qui organise le concours Plug and Start et soutient cet épisode. Vous avez un projet, vous souhaitez accélérer le développement de votre startup et gagner 3 à 6 mois sur l'avancée de votre entreprise, il est encore temps de candidater pour l'édition 2024 de Plug and Start pour faire partie de la vingtaine d'entrepreneurs qui investiront les locaux de la Technopole de l'Aube en Champagne. Cette année, c'est la 29e édition et c'est les 12, 13 et 14 juin 2024. Pendant 3 jours, vous pourrez tester l'offre d'accompagnement grâce à 45 dirigeants d'entreprises mobilisés afin de vous guider et vous conseiller. En parallèle, plus de 50 experts bénévoles représentant les multiples facettes de l'entrepreneuriat, du juridique au marketing en passant par le financier ou la communication, vous aideront à répondre à vos problématiques grâce à des solutions concrètes et adaptées à vos ressources. Plug and Start, c'est aussi des ateliers techniques, une grande conférence sur l'entrepreneuriat et l'innovation avec un invité de renom. L'année dernière, c'était au tour d'Éric Larchevêque, le cofondateur de Ledger et célèbre investisseur que vous connaissez et que j'ai accueilli sur ce podcast. Participer à Plug and Start, c'est l'assurance pour vous de repartir avec une roadmap structurée, une nouvelle vision de votre projet et de précieux contacts. De quoi donner un coup d'accélérateur décisif à votre startup. À vous de jouer. On attaque. Première partie, comment tu as fait pour passer de mère au foyer à entrepreneur? Alors évidemment, ce qu'on va essayer de creuser dans cette partie, c'est d'où tu viens, qui était la Gaëlle dans son enfance et qui a grandi au fur et à mesure avant de devenir entrepreneur. Okay. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu ton parcours?
Ok. Alors aujourd'hui, j'ai 34 ans. Je suis troyenne, donc de département de l'Aube, région Grand Est. Petite fille très portée sur la nature, très utopiste. Je me voyais vétérinaire. Et puis, je suis allée à Paris lorsque j'avais 18 ans, après mon bac. 2 ans d'études en histoire de l'art. J'ai pas vraiment trouvé ce qui me plaisait. Donc, j'ai repris une licence à l'université de Nice. Donc, je suis partie dans le sud. J'ai quitté ma famille, mon territoire, et je me suis retrouvée sur la Côte d'Azur. Et donc, je me suis lancée dans ces études et en master, je me suis dirigée vers le développement durable. Et là, j'ai été prise de passion pour tout ce qui était qui avait trait donc au développement durable, à la responsabilité des entreprises notamment. J'ai rencontré une prof formidable qui était écologue et qui m'a vraiment passionnée. Et donc, en première année de master, j'ai réalisé un mémoire j'ai adoré la recherche. Donc voilà, ça a commencé déjà à me diriger un petit peu vers la recherche. Comment aider les personnes ou les entreprises qui avaient des difficultés à se responsabiliser, qui avaient des difficultés à... À concevoir en fait des actions pour pouvoir justement agir en faveur du bien commun. Bref, donc j'ai étudié tout ça. Deuxième année, pareil, encore un mémoire. Et là, en fait, j'ai fait un stage de fin d'études de 6 mois dans une grosse entreprise à Monaco. Expérience enrichissante, mais un manque de sens en fait dans ce que je faisais. Donc d'accord. C'était j'étais chargée de communication RSE. Et voilà, il y avait un petit peu le Monaco ostentatoire, pas mal de dissonance.
Ouais, tu trouvais le RSE, mais il n'y avait pas la congruence, tout n'est pas aligné pour continuer dans cette voie.
Exactement. Et c'est là, en fait, que j'ai eu un premier tilt où je me suis dit, grosse entreprise, plus gros employeur de Monaco, magnifique entreprise. Mais qui avait malgré tout des difficultés à mettre en place une politique RSE donc au sein de cette entreprise. Et je me suis dit, si avec les moyens colossaux qu'ils ont, ils ont des difficultés à intégrer des actions éco-responsables au sein de leur entreprise, comment ça se passe pour les petites entreprises, quoi, en fait, qui n'ont pas les mêmes ressources, qui parfois ont des effectifs assez réduits, qui manquent parfois de compétences, de temps, des dirigeants qui sont au four et au moulin. Donc comment ça se passe pour ces petites entreprises ? Donc c'est tout, c'était vraiment le premier questionnement en fait qui est apparu pour moi.
Et on va s'arrêter là.
Ok.
D'accord. je t'ai laissé dérouler. On va creuser justement cette notion déclic et qu'est-ce qui toi après t'as mené à cette notion d'entrepreneuriat. Je voudrais revenir du coup sur ton enfance. Alors 3 Nice.
Ouais.
Pourquoi il y avait l'appel du soleil, il n'y avait pas du tout, c'était la dimension RSE qui t'intéressait, donc t'allais là-bas.
C'était, et puis à l'époque, j'étais en couple, donc j'étais jeune, je suivais mon amie de l'époque, et donc je me suis retrouvée, à 8 heures de route, donc coupée de ma famille, je revenais assez rarement à Troyes, mais il y avait la dimension aussi, effectivement... le soleil, Et puis surtout, ça me permettait aussi à côté d'avoir un job alimentaire en tant qu'étudiante, de faire des saisons, donc de concilier les deux, quoi.
Ok, et dans ton choix d'études, puisque tu es allé sur la communication RSE, à partir de quand c'est venu pour toi cette appétence ou ce déclic RSE ?
Disons que je l'ai toujours eu, en fait, ça fait vraiment partie de moi, je pense. J'ai vraiment, très intéressée par les insectes, l'étude des insectes, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc j'ai toujours eu ça, en fait, en moi. Après, la communication, je me suis vraiment prise de passion pour ça, parce que je l'avais étudiée, en fait, lorsque j'étais... au lycée. Je me suis dit, la communication, ça peut être quelque chose d'intéressant pour moi. Les sciences humaines et sociales aussi, ça m'intéressait. Et le côté développement durable, en fait, ça faisait sens, quoi. À un moment où vraiment on en a besoin, où on commençait à parler de ça, où j'avais aussi besoin de faire quelque chose qui soit en cohérence avec mes valeurs, avec ce que j'aimais faire. Et puis, étudier tout ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est fondamental. Donc de participer à cette mouvance et... voilà, ça fait partie.
Et là, on est en
moi.
Quelle année quand tu, toi, ce déclic où tu commences à aller sur cette dimension RSE ?
On est en 2010 peut-être.
Ouais, donc autant aujourd'hui, c'est effectivement dans toutes les bouches et dans toutes les entreprises, la dimension RSE, autant en 2010, c'était vraiment que les prémices.
C'était, et d'ailleurs, l'université de Nice, donc ce master-là, c'était l'une des premières universités. Tout à fait. Donc c'était le master Comed, exactement, pour ceux que ça intéresse. Un super master et des actions concrètes qu'on mettait en place. On a participé à développer des actions de mobilité durable dans un parc naturel. Donc j'ai été prise de passion en fait pour tout ça et je me suis dit que c'était ma voie et que j'avais trouvé ce qui me plaisait, ce que je voulais faire à ce moment-là, quoi.
Ok. Voilà. Donc la Gaëlle petite qui évolue au fur et à mesure, d'abord à Troyes, qui va à Nice, qui se prend de passion pour la dimension RSE. Mm-hmm. T'as tes premières expériences. Donc tu disais en tant que chargé de com dans cette grande entreprise, et là tu te dis il y a des difficultés, mais les grosses entreprises représentent que 1% finalement des entreprises en France, on l'a dit tout à l'heure en introduction. Comment moi je peux avoir de l'impact, c'est la question que tu te poses ou...
Exactement, c'est ça. Comment moi à mon échelle, avec mes ressources, je peux avoir de l'impact, je peux aider en fait les entreprises ou les personnes qui sont vraiment éloignées de tout ça, qui n'ont pas forcément encore une fois les moyens, et comment avec mes ressources, avec mes compétences, je vais pouvoir les aider, quoi. Donc à ce moment-là, en fait, je ne savais pas concrètement ce que je pouvais faire, mais en tout cas j'étais... j'avais trouvé ma voie, et puis une fois que bon, voilà, tu sais ce que tu veux faire, que c'est en cohérence avec, avec ce que tu as au plus profond de toi, bon, bah, tu
as de l'énergie et tu peux y
tout
aller.
Tout à fait.
Ok. Ouais. Ok, donc qu'est-ce qui. J'aimerais comprendre maintenant qu'est-ce qui a fait que tu es passé d'un poste, donc où tu étais en salariat, à je vais en fait créer une boîte. Parce que tu n'as pas fait d'école de commerce,
t'as
pas... enfin, voilà. Est-ce que tu avais des entrepreneurs d'ailleurs autour de toi, dans ton entourage?
Alors, des entrepreneurs...
Ou des mentors?
C'est... Alors, j'ai pas mal de personnes qui m'inspirent. Des entrepreneurs dans mon entourage direct, non. Après, j'ai pas mal d'amis qui ont lancé leur boîte, mais dans l'artisanat, ce genre de choses, dans l'upcycling. Donc oui, j'en ai, mais pas mal de petits artisans. Mais des entrepreneurs dans mon entourage direct et familial, j'en avais pas, quoi. Donc, pas de modèle à suivre qui pouvait m'accompagner dans cette voie-là, quoi.
Et les parents, l'entourage, comment ils ont pris quand tu sors d'une carrière pour prendre le risque de l'entrepreneuriat?
Alors, j'ai le soutien absolu et nécessaire, indispensable de ma famille dans cette voie-là. Et ça, c'est clairement une chance que j'ai. Donc après, comment ils l'ont pris? Je pense que ça, en fait, ça les a pas surpris, quoi. Me connaissant, connaissant ma façon de fonctionner, c'est quelque chose, je pense, qu'ils devaient peut-être s'y attendre ou à un moment donné que ça allait arriver, quoi. Donc, et puis surtout... l'entrepreneuriat, ça faisait sens aussi parce que j'ai toujours eu des difficultés à me satisfaire en fait d'un poste dans le salariat, à trouver des entreprises qui avaient les mêmes valeurs que moi. Alors il y en a de plus en plus maintenant, mais ça découlait en fait d'un cheminement logique, quoi. Donc
Comment ça s'est traduit leur soutien? C'est un soutien financier, moral, je sais pas, en compétences, en temps, comment ça se passe?
Alors, soutien moral, soutien financier, oui, aussi, indirectement, quand on a des besoins, ils sont là aussi pour nous soutenir. Et ça, pareil, c'est fondamental. Et puis soutien aussi en termes de logistique, d'accompagnement, de regard extérieur aussi. Donc, forcément, c'est un peu biaisé, c'est celui de nos parents. Donc, mais... voilà, c'est un gros soutien dans la famille.
Ça me rappelle la période où, quand moi je me suis lancé, j'avais annoncé à mes parents, et notamment ce jour-là, c'était à mon père que j'allais créer mon entreprise, et il m'avait dit, et c'est ce que je remets d'ailleurs dans le livre en préambule, il m'a dit, vas-y, fonce, je peux pas t'aider sur l'entrepreneuriat, mais par contre, je peux te soutenir, et sache que voilà, si t'y vas, vas-y à fond pour apprendre si ça marche, et apprendre aussi si ça marche pas,
exact.
Et potentiellement revendre l'expérience plus tard à un autre employeur, ou alors relancer une boîte.
Tout à fait, et c'est fondamental, quoi. Donc,
Ok, bon, super, donc soutien de la famille. Justement, famille, on y reviendra après, puisque tu t'es associé à ta sœur.
Exactement.
Donc, on va voir qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous avez décidé de vous lancer à deux. Mais pour revenir juste avant sur le sujet du déclic, qu'est-ce qui t'a fait décider de te lancer dans l'entrepreneuriat? Certains voient ça comme risqué, d'autres au contraire comme super ambitieux et puis une opportunité de s'épanouir dans sa vie. Voilà, c'était quoi le déclic pour toi?
Alors donc, j'en reviens à lorsque j'étais à Nice. Donc je me lance dans un projet de thèse. Je me dis c'est ce qui me plaît, la recherche, j'ai adoré ça. Je me suis focus pendant des mois sur un projet et je me suis dit bon, c'est ce que j'aime faire. Et puis j'ai un petit garçon qui vient au monde et je me retrouve toute seule en fait avec mon fils. Donc je reviens sur Troyes en fait en me disant bon, qu'est-ce que je vais faire? Mon laboratoire de recherche est à Nice. Là en fait il va falloir que je me bouge pour pouvoir assurer notre avenir financièrement et aussi d'un point de vue écologique. Donc je me suis dit bon, comment je peux faire à mon échelle en étant jeune maman avec peu de ressources financières mais beaucoup de volonté en fait d'agir. Et je me dis comment je peux faire pour faire tout ce qui est en mon pouvoir pour léguer à mon fils une planète viable, vivable, équitable et désirable. Et en fait, c'est devenu ma mission, quoi. Sauf que je ne voulais pas faire de concessions sur les jobs que je trouverais. Et puis sur la région, voilà, il n'y avait pas forcément d'offres qui collaient parfaitement, en fait, ni à mes compétences professionnelles, ni à mes valeurs. Donc, j'ai commencé à réfléchir à tout ça. Et puis là, je rencontre un homme dirigeant d'une régie publicitaire. Et en fait, il fait de la pub dans les clubs de golf. Et il se dit, j'ai envie de diversifier mon activité et de lancer un magazine éco-responsable, un projet lucratif pour moi. Et j'ai besoin de quelqu'un pour m'accompagner dans cette tâche, dans la rédaction du magazine, etc. Et dedans, il voulait y inclure forcément des encarts publicitaires.
Évidemment, c'est le modèle économique.
Et tout à fait. Donc je me dis, bon, le mec est spécialisé dans la publicité, dans les clubs de golf, et il y a un truc qui ne colle pas, en fait. Voilà. Donc j'y réfléchis, je me dis, il y a une certaine dissonance entre ce qu'il prône et entre ce qu'il fait réellement, son activité principale. Et je commence à réfléchir et l'offre d'emploi est suspendue. Le Covid arrive. Et donc forcément, comme pour beaucoup, je commence à me poser des questions, à me dire, bon, OK, j'ai du temps, je bouillonne d'idées. Cette idée de magazine est intéressante. Pourquoi pas l'adopter? Et en fait, je suis partie, si tu veux, de cette idée de créer un magazine au départ et de pouvoir justement sensibiliser les gens à des éco-gestes, à des petites choses comme ça. Mmh. Et l'idée est venue de pouvoir agir pour mon fils, pour moi-même.
Donc là, tu mixes communication, ton parcours et RSE.
Exactement.
C'est un début de projet pour toi.
Tout à fait. Et en fait, le projet a pivoté et ensuite, on est parti sur du digital parce que c'est quelque chose qui me plaît aussi. Je suis revenue à mon questionnement initial, à me dire les petites entreprises, dans mon entourage, des artisans qui essayent de faire des choses. Mais donc en fait, tout ça mis bout à bout. Le projet a pivoté, je me suis intéressée, j'ai pas mal échangé avec des petites boîtes, des dirigeants de petites structures, TPE, PME. Et puis voilà, il y a un besoin qui s'est manifesté. Et donc du coup, là j'ai commencé à penser, OK, un logiciel qui pourrait justement aider ces dirigeants-là dans leur démarche, ça pourrait être intéressant, ça pourrait réduire les coûts pour eux et ça pourrait justement favoriser la responsabilisation des entreprises.
Alors, dans ce que tu dis, c'est intéressant ce que tu dis. J'ai testé, j'ai discuté avec des gens, j'ai pivoté. Mm-hmm. Alors, c'est le quotidien d'entrepreneur, entre l'idée que tu as au départ et puis finalement ce que tu vas proposer.
Exactement.
Au marché. Il y a souvent un gap. Enfin, moi, le premier, j'avais gagné un concours étudiant de création d'entreprise. Entre ce qu'avait ce papier et ce qu'on a lancé, ça avait au final plus rien à voir. Est-ce que toi, à ce moment-là, tu as fait de manière intuitive, c'est-à-dire, tiens, j'ai fait une ou deux rencontres, j'ai connecté finalement les points, ça a fait évoluer le projet, ou est-ce que tu t'es posé, tu as dit, OK, je pose un modèle économique où j'écris toute mon idée et ça me permet d'avoir une trame que je fais évoluer au gré des rencontres ou au gré des évolutions du marché?
À ce moment-là, j'avais le temps, donc on était dans une période quand même où on avait un rapport au temps différent. Mmh. Et puis à côté de ça, j'étais quand même maman, donc je m'occupais de mon petit garçon. Donc voilà, j'ai laissé les choses mûrir en fait d'elles-mêmes. Et c'est au gré de mes rencontres, de mes échanges, qu'effectivement j'ai connecté différents besoins et différentes façons d'y répondre.
Ok. Ouais. À ce stade-là, tu es toute seule encore. C'est encore
à ce stade-là, je suis vraiment toute seule. Et vraiment, ça, c'est un point, c'est que je suis restée longtemps toute seule avec ce projet, avec cette idée. Et ça a été quelque chose au final qui était peut-être nécessaire, mais qui a changé à partir du moment où j'ai eu de l'accompagnement, quoi. Voilà. Donc,
Ok. Mm-hmm. Alors on va en parler justement. Donc tu passes de toute seule à associée avec ta sœur, avec des accompagnements. C'était quoi pour toi le déclic ou l'élément qui a fait que t'as proposé de t'associer autour de toi?
Donc ma sœur a forcément vu l'idée germer tout doucement.
Tu en as un peu parlé, j'imagine.
Forcément, voilà, exactement. Elle venait de devenir maman aussi, donc forcément, on avait des problématiques aussi pour. On se disait on voulait faire la chambre de ma nièce et on s'est dit bon, ce serait chouette qu'on puisse privilégier quand même des produits qui soient durables, qui soient locaux. Voilà, donc et difficulté pour identifier aussi autour de nous des petits artisans qui étaient engagés, qui faisaient des choses durables. Et donc voilà, on passe à une consommation, encore une fois, qui n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, ni pour nous, pour notre santé, ni pour l'environnement. Et là, on découvre en fait qu'à 3 km de chez ma sœur, y a un atelier qui est Clément, Upcycler, et on ne l'a pas vu, on n'est pas tombé sur lui.
On ne l'a pas spoté avant.
Et on aurait très bien pu, et on s'est dit, bon, on pourrait aussi, à travers cet outil, en gros, permettre aux petites entreprises engagées, leur donner de la visibilité, quoi. Donc en gros, l'idée aussi est venue de cette façon-là. Et donc ma sœur a mis un pied dans le projet et elle avait des compétences justement commerciales, donc c'est ce qui manquait aussi à ce moment-là, et donc on a fait évoluer le projet ensemble.
Et donc elle, par rapport à son parcours, tu dis elle a des compétences commerciales, mm-hmm. Elle était déjà aussi dans une carrière, elle a quoi comme parcours?
Elle a un DUT en technique de commercialisation. D'accord. Elle a eu pas mal d'expérience dans diverses entreprises, et puis là elle travaillait à l'UTT, l'Université de Technologie Troyenne, donc du coup, elle était déjà aussi dans cet écosystème un petit peu. Elle connaissait pas mal le mode de fonctionnement.
Ok. Donc là, vous dites, bon, nos carrières vont se rejoindre autour de l'entrepreneuriat. On décide de se lancer ensemble. Là, il y a une structure qui existe déjà ou pas du tout. Non, il n'y a pas encore.
Et on est toutes les deux à ce moment-là, encore une fois. Ouais. Donc, à côté de ça, je postule à un concours qui est la French Tech Tremplin. Et en fait, on sait qu'à un moment donné, il va falloir qu'on soit... Si on passe la première phase, la seconde phase, c'est d'être incubé. Et donc, on se rapproche de la Technopole de l'Aube en Champagne, quoi. Technopole de l'Aube. Et on commence tout doucement à être épaulé, en fait, dans notre projet. Donc, on rencontre...
Tout de suite, vous avez eu du soutien et le projet est bien accueilli.
Donc, on s'est dit, bon, plutôt chouette parce que voilà, on croit en notre projet et on n'est plus les seuls à y croire, quoi.
Oui, à ce stade-là, c'est encore embryonnaire. C'est-à-dire, c'est le tout début, c'est les idées, vous testez.
Exactement. Donc voilà, on met ce pied au sein de la Technopole. Et puis, donc on a en parallèle ce concours, French Tech Tremplin. Et au sein de la Technopole, on nous parle d'un autre concours qui est donc Plug and Start, qui a fait changer l'évolution en fait, de notre société, de notre idée, qui a fait passer notre idée à une société, à la création de notre société, quoi.
D'accord.
Donc, voilà.
Donc c'est le fait d'avoir participé au concours qui a fait qu'à un moment donné, après, vous avez créé les structures.
Exactement.
Et discuter des différentes questions qui fâchent aussi c'est au ça. Moment de l'association. C'est quels sont les rôles de chacun, les parts, comment on fait. Alors, ce que je propose, c'est qu'on parlera du concours dans quelques minutes.
Okay.
C'est de finir sur cette partie-là, l'association donc avec sa sœur.
Mm-hmm.
On va aller vite en avant, du coup. Comment vous avez fait pour répartir justement les rôles, les parts et l'implication de chacun dans le projet?
Alors, c'était... assez naturel et fluide, quoi. Au final, on s'est dit, on a réparti les parts à moitié. Mm-hmm. Donc, on a fait 49-51, donc pas une moitié exacte.
Oui, parce que souvent, les banques n'aiment pas les 50-50.
Voilà, mais dans l'idée, voilà, ça a été plutôt fluide. Et puis, moi, je travaillais sur tout ce qui était justement stratégie. Déploiement aussi, tout doucement, de l'outil. On a créé un prototype, en fait. Donc, on s'est formé sur... au développement, donc sur WordPress, on a créé un premier prototype. Ma sœur, elle était plutôt chargée de prospection, de découverte client, d'appeler des prospects potentiels et de poser des questions pour qu'on puisse affiner en fait notre logiciel. Et donc ça a été plutôt la répartition des tâches a été hyper naturelle, quoi.
Ok. Question cash. Comment ça se passe d'entreprendre avec sa sœur? Tout se passe bien ou il y a des moments un peu plus galères?
Alors non, tout se passe plutôt bien. Après, on en est encore une fois qu'au début de notre aventure à deux.
Mmh.
Donc, à voir dans la durée, mais jusqu'à maintenant. Et puis, on a aussi bien défini en fait, des conditions dès le départ, c'est-à-dire faire un point quand c'est nécessaire, quelle est la façon de communiquer, se dire les choses, être transparente.
Mmh.
Et en fait, on a une relation quand même très solide au départ. Et on se dit les choses, quoi.
Donc, vous avez à faire la part des choses aussi entre les moments perso où vous êtes sœur et les moments où vous êtes associée.
C'est ça qui est difficile, en fait. Voilà, c'est que tu as une espèce de frontière qui est assez fine entre les deux.
Ouais, c'est pour eux.
Donc, assez, tout à fait. Donc, la difficulté est là. Il y a des moments où on ne parle pas de la boîte, en fait. Et on se focus sur la famille.
Vous aménagez des temps pour
tout
vous.
Tout à fait. Et c'est nécessaire, je pense. Donc,
On le voit dans tous ceux que j'ai pu interviewer sur ce podcast, l'importance de la relation entre associés,
mm-hmm.
qu'on soit à la base par un lien de parenté, par qu'on soit des copains, qu'on ne se connaisse pas du tout.
Ouais.
Voilà, l'idée, c'est comment on arrive à s'aménager des temps pour entretenir aussi la relation. Puisque,
c'est ça.
Ça a son importance. Et moi, je le vois avec Max, mon associé, comment on arrive finalement à se dire, bon, OK, là, il y a des week-ends ou des temps où c'est pas pour parler boulot, c'est pour justement entretenir notre relation. Donc, vous décidez de vous lancer avec ta sœur, vous participez à ce concours. Avant d'entrer dans la deuxième partie, une dernière question. Pourquoi ce nom d'Audi, ça veut dire quoi?
Alors, Dodi, je ne sais pas si tu connais les ODD, les Objectifs de Développement Durable.
Okay.
Voilà, donc des directions, Objectifs de Développement Durable,
D'accord.
Éthique Environnementale. Et en fait, il y a un petit clin d'œil qu'on a appris par la suite. T'as un théoricien des parties prenantes, donc un des premiers qui a vraiment théorisé vraiment les prémices du développement durable, qui s'appelait Monsieur Dodd, D-O-D-D.
D'accord.
On l'a su qu'après, donc on s'est dit petit clin d'œil. Enfin, voilà, c'est,
ça, tu le racontes maintenant dans l'histoire.
Et oui, c'est venu, ouais, okay. Donc plutôt sympa. Donc voilà, puis Dodi c'était court, c'était je trouve que on peut personnifier un petit peu le nom, donc c'est devenu aussi notre mascotte.
Enfin, ça m'intéresse toujours d'arriver à comprendre le nom, parce qu'il existe différents types de noms, les noms fantasy, les noms patronymes, les noms génériques, etc. Super intéressant, merci. On passe à la deuxième partie. Okay. Donc, comment tu as fait pour te lancer dans le SaaS, hein, parce que c'est une plateforme, un logiciel RSE, tu le disais tout à l'heure, alors que toi, tu n'es pas tech à la base.
Ouais.
Et comme point de départ, on va prendre justement ce concours Plug and Start qui, pour vous, a mené à la création de l'entreprise. Mm-hmm. Donc, comment ça se passe à ce moment-là? Comment vous en venez à créer la boîte? Et puis surtout, on l'a vu, toi, tu as un profil chargé de com RSE au départ.
Ouais.
Ta sœur, plutôt commerciale. Donc, vous êtes complémentaires sur cette association. Mais vous lancez un logiciel.
Ouais.
Et donc, il y a besoin de tech.
Exactement.
Et donc, comment on fait à ce moment-là quand on n'y connaît rien?
Ouais. Donc, déjà, une appétence pour le digital. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental pour savoir un peu ce qui se fait, savoir quelles sont les dernières tendances en termes d'UI, UX. Enfin, voilà. Moi, c'est quelque chose déjà qui me plaît beaucoup. Mm-hmm. Plug and Start, en fait, ça a été... ça nous a permis, en fait, d'affiner notre outil. Donc...
Et comment ça s'est passé? Vous étiez arrivé avec une idée d'outil, avec déjà une première version, un prototype.
Ouais.
Et là, ça a été testé par des entrepreneurs, des mentors. Comment ça s'est passé?
Alors nous, on avait fait tester ça au préalable par des dirigeants de notre entourage, notamment. Donc une bonne réceptivité, un attrait pour ce qu'on proposait, mais un produit pas du tout commercialisable. J'avais bidouillé des plugins, des plugins sur WordPress avec un petit peu de code pour pouvoir faire fonctionner la machine.
Et c'était quand, ça?
Ça, c'était il y a un an et demi.
D'accord,
donc, voilà.
Donc, avec moins de no-code qu'aujourd'hui, qui est beaucoup plus
généralisé. Exactement, ouais. Donc, c'était du low-code, en fait, mais à mon échelle, avec ce que je savais faire et j'ai pas mal appris aussi. Donc, on arrive, en fait, on était à peu près à cette étape-là. On avait testé un prototype avec des tests utilisateurs, mais à petite échelle. Et puis, on arrive avec notre idée, avec une landing page, qui expliquait un peu notre solution, ce qu'on proposait. Et on rencontre, Plug and Start, ça nous a mis en relation avec trois mentors, en fait, trois experts, dont deux experts RSE, disons qu'ils nous ont chaperonnés durant 72 heures.
C'est eux qui vous ont choisis ou c'est vous qui les avez choisis?
C'est Plug and Start, c'est l'organisation qui nous les a attribués.
D'accord.
En fonction forcément après de notre...
Des secteurs, des expériences.
Tout à fait, exactement.
Okay.
Donc, mais ça collait plutôt pas mal. Du coup, ça a été, on s'est enrichi mutuellement parce que ils ont fait grandir aussi notre solution, en nous faisant des retours d'expérience de leur côté, eux, en tant que. Et puis, on a vu que de leur côté, il y avait aussi un besoin, et ça, on l'avait pas identifié au départ, côté consultant RSE, expert RSE, qu'ils avaient besoin aussi d'outils, d'une part, pour trouver des missions. Deuxièmement, pour aussi avoir accès à des outils d'audit et de reporting qui pouvaient leur simplifier la vie et leur permettre de se concentrer, eux, sur leur cœur de métier.
D'accord.
Donc souvent, les experts RSE peuvent passer du temps à expliquer à leurs clients comment remplir un questionnaire. Donc en fait, ça nous a aussi permis d'affiner par rapport aux besoins des experts RSE.
Vous avez affiné du coup la solution.
Tout à fait.
Et qu'est-ce qui a mené à la création de la structure? Et vous avez choisi quoi d'ailleurs? SARL, SAS?
Alors SAS, du coup, on a créé une SAS. Ça a découlé de notre expérience durant Plug and Start. Mm-hmm. Ça tombait plutôt pas mal parce qu'on venait d'être aussi lauréate French Tech Tremplin.
Mm-hmm.
Et donc tous ces... Tout s'est organisé de cette façon-là, ça a été assez...
Pour celles et ceux qui écoutent, SAS, c'est vraiment une forme juridique intéressante pour les startups, pour tout ce qui est notion de partage de parts, de capital, etc. Il y a plus de possibilités.
Exactement, et on a vraiment rédigé des statuts qui collaient à notre mode de fonctionnement. On y a inclus notre raison d'être dès le départ. Donc ça a été...
Vous êtes entreprise à mission?
Alors, entreprise à mission, il faut quand même avoir des objectifs qui soient bien définis dans les statuts de la société et avoir un comité de pilotage qui vienne vérifier la bonne exécution du coup de ces objectifs.
D'accord.
Donc, pour être qualifié d'entreprise à mission, il faut quand même avoir un suivi beaucoup plus profond que ce que nous on fait. Mais on a une raison d'être et donc dans l'optique de devenir société à mission à terme.
Oui, c'est une trajectoire pour
tout
vous.
Tout à fait. Donc on l'a fait dès le départ. Ouais. Et puis ça faisait sens avec ce qu'on proposait. Voilà.
Ok. Mmh. Donc là, vous arrivez avec ce prototype.
Ouais.
Vous arrivez à convaincre puisque vous êtes quand même lauréat. Vous gagnez un prix.
On est troisième prix. Oui, tout à fait. Donc belle récompense. Enfin, c'est... et puis une belle mise.
Et qu'est-ce que tu as appris de ça ? T'as pitché, quels ont été les bénéfices finalement de cette partie ?
Alors une prise de hauteur, parce que c'est vrai que quand on est focus sur un projet comme ça, parfois on est vraiment pris dans le truc et on n'a pas forcément...
Tu vois que ça quoi.
On est dans un tunnel quoi. Donc là, une prise de hauteur, des retours aussi d'experts dans leur domaine respectif qui nous permettent aussi d'avoir un pied dans la réalité quoi. Donc ça, hyper important. Et puis des mises en relation qui nous permettent toujours aujourd'hui d'avancer en fait, et de créer des partenariats qui sont hyper importants pour notre développement. Quoi.
Quand tu dis des partenariats, c'est quoi ? C'est plutôt des partenariats économiques
Alors oui, ça peut être économique, ça peut être stratégique. Ça peut aussi être des partenariats juste humains en fait, avec d'autres porteurs de projets qui traversent les mêmes épreuves que nous, qui en sont au même stade de développement que nous. Donc on a... une espèce de symbiose quand même qui s'est créée lors de cette expérience de 3 jours. Et du coup, voilà, c'est de l'entraide, même à distance, parce qu'on est tous un peu atomisés dans des territoires différents. Mais on garde quand même une belle énergie mutuelle tous ensemble. Quoi. Donc,
bon, tu viens aussi de décrire le podcast, comment tu as fait quoi. C'est comment à distance, on arrive à s'entraider et prendre des expériences des autres dans l'entrepreneuriat, peu importe qu'on soit au tout début ou au contraire plus avancé dans le parcours. Ok, donc vous remportez ce prix, ça vous permet donc de faire ces différentes rencontres. Comment ça se passe sur la notion modèle économique ? Comment vous gagnez de l'argent ? Est-ce que vous êtes accompagné sur cette partie-là ? Est-ce que vous, c'est clair pour vous à ce moment-là ou pas encore ?
Alors si, à ce moment-là, on a déjà conçu en fait nos 3 modules. Donc nous, on a une approche modulaire. Notre logiciel est décomposé en 3 modules. Le module d'audit, le module d'accompagnement, donc conseil RSE, et le module de reporting. Voilà, donc on a une tarification à la carte. Et donc ça, dans notre tête, c'était plutôt clair. Après, la tarification, on avait encore un petit peu de mal à ajuster les prix. Enfin voilà, on avait encore besoin d'affiner tout ça. Mais on avait déjà une idée de notre modèle économique à ce moment-là.
Et ça, vous l'avez testé pendant le concours auprès des différents experts ou pas ?
Alors,
la notion de tarifaire.
On a creusé par la suite. Après, lors de notre... en fait, si tu veux, ça nous a ouvert la voie ensuite à un parcours de pré-incubation. Et c'est là qu'on a vraiment continué à creuser ces aspects-là.
D'accord.
Avec la Technopole, en fait.
Et ça, c'est pendant combien de temps ?
C'est quelques mois. C'était 3-4 mois de pré-incubation. Une journée toutes les 2 semaines. Avec, du coup, d'autres porteurs qui faisaient partie de Plug and Start. Donc... Et l'accompagnement de la Technopole. Donc, et on a creusé ces différents jalons tous ensemble. Voilà, ce qui nous a permis à terme d'avoir une idée et une construction vraiment précise de notre projet.
Ok. Ouais. Et quand tu dis tarifaire, donc selon les modules, est-ce que vous êtes sur un modèle économique d'abonnement ? Est-ce que vous êtes à l'usage ? Comment ça se passe ?
Alors, c'est abonnement récurrent, voilà, le modèle SaaS. Donc, voilà, avec
donc, annuel et peut-être des tarifs différents si c'est au mois.
Mensuel, annuel, c'est ça. Et,
Ok. Alors, j'avais une question, c'était justement tous ces choix de positionnement et autres. Est-ce que vous les aviez définis en amont du concours ou après ? Donc, je crois comprendre que c'est pendant la période de pré-incubation où là, vous avez poussé finalement le projet, vous l'avez testé, stress-testé, on dirait même, auprès de différents profils. Moi, la question, alors tu as répondu tout à l'heure aussi, c'était pourquoi Plug and Start et pas d'autres concours ? Bon, tu es originaire de l'Aube. Est-ce que c'est ça la seule origine, la seule raison ou pas ?
C'est un concours en fait dont on entendait forcément parler, mais jamais j'aurais forcément imaginé qu'un jour j'y participerais.
D'accord.
Donc une fierté forcément, et puis de voir aussi beaucoup de porteurs venant de France, mais aussi des DOM-TOM. Enfin, c'était donc oui, je pense que c'est le fait qu'on soit auboise, qu'on ait déjà un pied dans l'écosystème qui nous a permis. D'arriver à ce concours-là, mais voilà, ça s'est fait naturellement, quoi.
Qu'est-ce que tu as appris ces derniers mois, que ce soit avec ce concours ou dans tes autres expériences, que tu n'as pas appris quand tu as passé ton master ou pendant tes études, et qui pour toi est essentiel pour quelqu'un qui voudrait se lancer ou qui serait déjà au début de son projet ?
Alors déjà, j'ai appris à m'organiser, mais de manière très efficace et à timer en fait énormément.
T'as des exemples justement et comment tu fais ?
Là, j'en arrive à tout noter. C'est-à-dire que je suis assez archaïque dans ma façon de m'organiser. J'ai toujours mon agenda papier, mais je note tout en fait dessus, y compris tout ce qui a trait à ma vie personnelle en fait, à mon fils, à mon organisation. Ce qui me permet aussi de me dégager. De la charge mentale que ça peut représenter. Après, j'ai des outils forcément que j'utilise. Je vais utiliser des outils assez basiques aussi, comme Notion, ces outils-là. Et ça m'a également appris à m'organiser, mais à poursuivre en fait une mission. Je pense que ça, c'est aussi quelque chose que j'avais jamais eu l'impression de poursuivre jusqu'à maintenant et c'est qui donne du
sens.
Comment
tu fais pour te la rappeler cette mission ? Enfin, on sait que dans les entreprises, il y a des visions, des missions, des ambitions. Il ne suffit pas de la dire une fois ou de l'affirmer une fois pour qu'elle se produise déjà, puis qu'en même temps, on l'ait toujours à l'esprit. Comment tu fais le matin ? T'as un reminder, je sais pas, tu reçois une alerte sur ton téléphone qui dit ça c'est ma mission du jour, ou tu l'as en fond de ton ordi, ou comment tu fais ?
Je l'ai dans mes tripes, quoi. Enfin, ouais. Je veux dire, c'est vraiment quelque chose. Tu sais, quand je vois tout ce qui se passe autour de nous, les différents bouleversements, contemporains, quoi. Rien que ça, ça me rappelle en fait qu'il faut que je me bouge et que je fasse tout pour pouvoir justement participer, en tout cas, et même si. C'est difficile, même si ça nécessite pas mal de concessions, d'abnégation. En tout cas, la mission, non, elle n'est pas écrite, mais quand je vois mon fils, en fait, ça, c'est juste
oui,
ça.
Tu y repenses à chaque fois que
bien
tu le vois.
Bien sûr, c'est la nature que j'ai connue, j'ai envie qu'il puisse connaître la même, en fait, le même environnement, le même. Et donc ça fait partie de moi, quoi, clairement. Je pense qu'en fait, quand tu es aligné vraiment avec la vision de ton entreprise, tu n'as pas besoin de te la rappeler, quoi, en fait.
Alors ça, c'est pour toi, parce que toi, t'es à l'origine. Après, avec les collaborateurs, la question sera comment tu fais pour diffuser et pour faire en sorte que tout le monde l'ait toujours à l'esprit. T'as déjà commencé à réfléchir à ça ou pas ? Parce que t'es pas toute seule, il y a ta sœur associée, mais il y a aussi d'autres personnes dans le projet.
Alors là, on le voit avec les développeurs avec qui, justement, on bosse sur le développement du logiciel. Et en fait, c'est pareil, quoi. Je veux dire, quand t'es ouvert aux rencontres et que t'échanges de manière transparente avec les gens, au final, tu te dis, bon, les choses se font naturellement. Et là, l'exemple, c'est qu'on a deux développeurs avec lesquels on échange et qui partagent absolument la vision de Dodi, quoi. Donc,
ça veut dire que même dans leur code, ils font attention à ce que le code ne soit pas lourd, démarches d'éco-conception, etc.
Ça, exactement. Ça, c'est inclus dans le cahier des charges. La notion d'accessibilité web aussi. Et donc, avoir un code qui soit léger et effectivement pouvoir avoir un impact carbone qui soit le plus faible possible pour notre logiciel, quoi.
Alors, comment tu les as trouvés ? Parce que tu n'es pas tech à la base, ta soeur non plus. J'ai envie de te dire, tu pourras avoir deux devs devant toi, savoir s'ils font du beau code ou pas. Quand tu n'es pas tech, c'est compliqué de le savoir. Ouais. Comment tu as fait pour arriver à trouver, t'entourer de développeurs ?
Toujours pareil, en fait, hein, c'est l'écosystème, les mises en relation, le fait que tu rencontres des personnes, ça t'ouvre de nouvelles rencontres, de fil en aiguille. Donc ça se fait plutôt naturellement. Après, encore une fois, effectivement, j'ai réalisé le cahier des charges seul, avec l'appui de deux amis qui sont eux-mêmes développeurs, donc il y avait un regard là-dessus. D'accord. Et puis des regards externes aussi de personnes rencontrées au sein de la Technopole ou d'autres environnements de travail, quoi.
D'accord, donc c'est une société, c'est deux développeurs freelance, c'est une société avec plusieurs développeurs ?
C'est une société avec des développeurs. Pour l'instant, on n'a pas encore arrêté, en fait, la sélection de nos développeurs. On est en train, justement...
On ne va pas le révéler, là.
C'est...
J'ai compris.
Tout à fait. Mais ça s'affine de plus en plus, et je pense que le fait aussi de prôner des valeurs de localité, on essaye aussi de trouver des développeurs qui fassent partie de notre territoire et qui partagent nos valeurs. Et ça, ce sera deux critères qui seront fondamentaux aussi pour la sélection qui approche et pour le lancement du développement là, en avril, quoi.
Ok, donc on est bientôt au lancement. Vous allez pouvoir tester réellement sur le marché.
Exactement.
Avec après tous ces mois de pré-incubation et de retour d'expérience. Pour finir sur la partie tech, donc vous avez cette équipe de développeurs qui vous accompagne. Comment, alors vous avez défini un cahier des charges. D'ailleurs, question pour ça, comment ça s'est passé la définition du cahier des charges quand t'es pas tech aussi à la base ? Arriver à penser à toutes les spécifications, tous les usages ou toutes les les différentes réactions, si tu veux, des boutons, des pages, etc. C'est pas simple quand on découvre, en fait. Quand on sait pas qu'on sait pas, c'est compliqué, quoi.
Et bah, c'est du temps, en fait. Ouais. C'est-à-dire que là, pour l'instant, je fais tout, moi. Les maquettes, je les ai faites moi-même. Donc, je m'inspire énormément, en fait, d'autres logiciels, d'autres entreprises. Enfin, voilà, c'est beaucoup.
Tu réinventes pas la roue, en fait.
Non, c'est ça. C'est beaucoup d'inspiration. Et puis après, c'est passé beaucoup de temps là sur la rédaction de ce cahier des charges, et puis avoir aussi des retours de professionnels de ce secteur-là, quoi, pour voir si ok, est-ce que ça ressemble vraiment à ça, un cahier des charges, est-ce que, et puis avec tout ça, en fait, affiner, modifier, et voilà, quoi, c'est une co-construction, quoi, en fait, on est vraiment dans cet aspect-là, quoi.
Donc, on le voit dans les projets, nous, qu'on peut avoir aussi avec mon agence sur la création de sites web ou de plateformes. La définition du cahier des charges, elle est essentielle, parce que entre ce qu'on a dans la tête, comment on l'écrit, et puis après comment c'est décrypté, compris par le développeur, et puis finalement réalisé, il y a souvent un gap. Comment tu t'assures, toi, qu'au fur et à mesure, la plateforme, elle évolue, en tout cas, elle est développée dans la cohérence de tout ce que tu avais en tête?
Bah, beaucoup de rendez-vous, quoi, en fait.
Ouais.
Beaucoup
de rendez-vous. Des points de passage réguliers,
tout à fait,
toutes les
c'est
semaines
ça. Donc, exactement, le D'accord. plus régulièrement possible. Et pour garder justement un regard sur tout ça.
Ouais.
Et pour l'instant, bon, voilà, je le fais.
Ça fonctionne.
Ça fonctionne pas mal. Donc,
Ok. Donc, lancement en avril. Alors, vous, associés et dirigeants, vous avez la possibilité, enfin le choix ou pas, de vous rémunérer, etc., en fonction aussi du chiffre d'affaires ou autre. Mais quand tu fais appel à des tiers, j'imagine que ces développeurs ont aussi un coût, à moins que ce soit un partenariat. Comment tu as fait justement pour t'entourer d'eux et aller jusqu'à la sortie de la plateforme?
Tu veux dire financièrement,
ouais.
en termes de budget?
Ouais.
Donc, on a été lauréat de French Tech Tremplin. Et donc, on a eu une subvention qui nous a permis de lancer ce développement.
D'accord.
Donc, c'est plutôt parfait. Et donc, pour l'instant, on se tourne vers des subventions, des demandes de subventions, ce qui nous permet aussi de pouvoir ensuite commercialiser notre solution, parce qu'il y a aussi ces aspects-là.
Et oui.
Au-delà du développement, après. Et puis surtout, pour l'instant, on vise un bêta-test fermé, donc pour pouvoir aussi traiter les différents feedbacks, et une zone de chalandise qui sera celle du Grand Est et de l'Île-de-France. Donc, et puis pour avoir les premières preuves de traction et nous déployer ensuite nationalement. Donc on y va aussi par étapes et avec une petite échelle au départ, quoi.
Ok, bah écoute, merci. Je propose qu'on passe à la troisième partie, c'est un point d'étape d'où est-ce qu'on en est. Et quelle est ton ambition pour Dodi et comment tu comptes y arriver? Donc là, j'ai compris que d'ici quelques semaines, on allait avoir la première version qui sort. Voilà, comment tu vois les choses? Est-ce que vous prévoyez d'ajouter des modules, d'aller sur d'autres zones géographiques? Tu as commencé à en parler. Voilà, c'est quoi le plan?
Alors le plan, déjà, c'est de lancer notre bêta test, justement, et de se focaliser au départ sur le secteur du textile et notamment les marques de vêtements et de chaussures. Enfin voilà, donc de viser...
Il y a un noyau d'entreprise autour de trois, justement,
et voilà,
sur le
donc
sujet.
C'est trois berceaux du textile. Et puis, tu as pas mal d'enjeux, en fait, liés à ce secteur aussi, hein, deuxième industrie la plus polluante, des consommations énormes d'eau.
Oui, pour le coup,
d'eau.
Là, il y a de
voilà.
l'impact à avoir.
Tout à fait. Et puis, ça faisait sens, puisque la zone géographique, stratégiquement, enfin, c'est hyper intéressant. Et puis, un besoin aussi que ces entreprises évoquent. Donc, finalement, on s'est dit, bon, le secteur du textile, pour commencer, c'est vraiment parfait. Donc, le bêta test qui va durer 3 mois, qui va nous permettre aussi de pouvoir justement réajuster les derniers éléments de notre logiciel avant de lancer la commercialisation en septembre. Et puis, donc, nous, comment on voit les choses? En fait, on va commencer par ce secteur-là, mais le but pour nous, c'est de devenir multisectoriel.
D'accord.
Donc, voilà.
Donc, pas que textile?
Non, pas que
Alors,
textile.
À ce sujet, j'ai interviewé sur le podcast Clémence Wurtz de Flair Body. Ça te parle?
Oui, ça me parle. Entreprise aussi... voilà, qui est dans
Ils
notre...
sont basés à Troyes aussi.
Voilà, qui est dans notre... Et avec qui j'aimerais échanger prochainement. Donc,
Écoute, on en parlera après.
Ouais.
Mais Clément, si tu nous écoutes, hein, y a un contact pour toi. Ok, donc après, c'est multisectoriel. Après textile, vous avez déjà identifié un secteur en particulier. Comment vous faites? Vous dites, on prend la liste de ceux qui sont, je sais pas, les plus polluants ou les plus controversés?
Alors, et aussi par rapport aux réglementations qui sont de plus en plus coercitives et qui sont parfois difficiles à adopter par les entreprises. Et donc, du coup, qui souligne un besoin du côté des entreprises. Donc, le deuxième secteur, ce serait celui de l'ameublement.
D'accord.
C'est aussi pour une question de faisabilité technologique. Disons que voilà, ça nous permet, nous, de développer un tronc commun Notre algorithme sera un tronc commun et ensuite des embranchements pour le secteur textile et ensuite pour le secteur de l'ameublement qui diffèrent pas trop en fait. Voilà, donc d'un point de vue technologique, c'est la faisabilité. Et ensuite, le secteur de l'agroalimentaire et puis progressivement...
Et ça, vous avez identifié combien d'entreprises, à combien d'entreprises ça correspond? Et quel chiffre d'affaires vous pourriez faire potentiellement avec eux?
Alors au départ, nous, on vise la première année un chiffre d'affaires qui est plutôt, qui est plutôt réaliste et, avec les ressources que l'on aura. Oui, on a commencé à identifier ces entreprises, la taille de marché également.
Vous estimez quoi, en centaines de milliers, en millions d'euros?
Ah non, nous, on vise plutôt justement du 100 000 euros la première année. De chiffre d'affaires et puis après...
Donc toi, ça validerait donc le concept.
Tout à fait.
Ça permettrait après d'investir.
Voilà.
Okay.
Et puis ensuite, donc là, viser dans un premier temps la zone géographique du Grand Est de l'Île-de-France, vraiment pour tester notre solution et puis la déployer à échelle nationale dans les 6 mois. Quoi.
Donc après, vous aurez un vrai sujet d'accélération. C'est-à-dire que si vous validez le concept et que ça prend sur cette niche... C'est intéressant ce que tu dis parce que souvent, quand on pense start-up, on se dit... Ok, mais il faut qu'ils aillent vite, qu'ils fassent vite une levée de fonds et qu'ils arrosent un peu partout et même mondialement. Et là, toi, tu as une approche et tu l'as dit, tu as dit selon nos ressources. Et c'est intéressant aussi de voir que on n'est pas tous des startups avec des millions. Enfin, moi, mes entreprises ne sont pas des startups qui ont levé des fonds. Et donc, on peut aussi construire de manière pérenne ou en tout cas y aller par étapes et se dire ok, bon, là, moi, je veux valider ça auprès d'un secteur et concentrer mes efforts plutôt que de m'éparpiller partout et dire si ça marche sur cette niche et ce segment que c'est validé. Là, je pourrais investir ou je pourrais aller passer à une levée de fonds. Ou autre.
Exactement.
Donc, et ça, c'est votre approche.
Tout à fait, en fait. D'accord. Donc, jusque-là, les levées de fonds, c'est pas pour tout de suite. Et puis, on veut aussi conserver pour l'instant un maximum d'indépendance. Donc, on y va par étapes. On valide progressivement chacune des étapes.
Alors, du coup, ceux qui pourraient avoir des contre-arguments sur ça diraient oui, mais en fait, une fois que vous avez lancé sur le marché votre produit, votre solution, il y a d'autres concurrents, vous n'êtes pas les seuls. Comment vous faites pour vous différencier ou pour surtout, si finalement vous validez le concept, peut-être que d'autres iront plus vite. Est-ce que ça, vous avez déjà réfléchi à une stratégie ou pas?
Alors, oui, c'est une stratégie qui est en cours de réflexion. Maintenant, c'est vrai qu'on n'a pas forcément envie pour l'instant de perdre notre vision, de perdre notre. Notre indépendance, et puis nous, ce qu'on vise aussi, c'est de se dire bon, la croissance, ok, on en parle beaucoup, mais il n'y a pas que ça non plus, quoi, en fait. C'est difficile parfois de se dire bon, il va falloir faire croître la boîte, il va falloir aussi pouvoir répondre à un maximum de besoins, mais il y a aussi conserver ses valeurs, conserver sa vision, avoir d'autres indicateurs de performance à suivre que ceux de la croissance, quoi. Donc, c'est une stratégie, effectivement, qui est en cours d'élaboration.
Ouais. Ok. Pour toi, Dodi serait une réussite si quoi, dans 3 ans?
Si on pouvait internaliser certaines compétences, si on pouvait offrir de l'emploi, en fait, à des personnes, avoir des salariés heureux, en fait, de venir travailler, donner du sens aux personnes qui pourraient travailler avec nous. Et ce serait une réussite si on pouvait vraiment accompagner un maximum de petites entreprises dans leur transition écologique, si on pouvait participer, en fait, à maximiser l'impact positif de ces petites entreprises.
Et t'es fixé, parce qu'on a parlé de 99% des entreprises en France ont des TPE, t'es vous touchez 1%, 50% de ces TPE?
Non, j'ai pas de...
T'es, je me suis un gap,
pas... non? Non, pas du tout, non. Okay. Donc, pas à ce stade, en tout cas.
Ok. Ouais. Ok. Donc, là, vous allez vous lancer sur le marché, vous allez vous développer, vous commencez par un secteur. C'est quoi le plan, l'organisation maintenant pour aller le chercher? Parce que vous allez mettre en ligne la plateforme, mais il faut la faire connaître. Il y a plein de gens, et puis ces tendances en ce moment qui, justement, sont aussi dans la même mouvance ou le même état d'esprit. Donc, est-ce que vous avez déjà fédéré une communauté? Est-ce que vous allez vouloir le faire? Est-ce que ça ne sert pas, hein? Peu importe, hein, mais voilà, c'est quoi votre vision là-dessus?
C'est de pouvoir aussi créer des partenariats et donc notamment avec des experts RSE qui viendront en soutien en fait sur différentes actions qu'on propose. Et donc de pouvoir justement leur proposer un outil qui participera, enfin qui les aidera aussi à pouvoir diffuser notre logiciel.
Donc en fait, vous avez 2 clients. Vous avez l'entrepreneur ou le dirigeant ou l'équipe RSE directement. Ça, c'est plutôt pour l'entreprise TPE. Et après, pour le consultant RSE, qui est en vogue en ce moment, l'outiller lui
exact.
Pour qu'il puisse faire ses audits, parce que tu parlais des trois modules,
c'est ça.
Audit, accompagnement et reporting,
tout à fait.
Qu'il puisse lui justement gagner du temps dans ses missions,
c'est ça.
Et les valoriser auprès de ses clients.
Exactement, c'est d'accord. Exactement ça. Donc la création de partenariats, c'est quelque chose aussi voilà, qu'on a à cœur de mettre en place. Et donc voilà, on mise aussi.
Tu dis partenariat, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que tu leur mettrais à disposition la solution ou tu leur vendrais ?
Non, alors elle est mise à disposition, c'est les entreprises, les clientes, voilà. Dans d'accord. L'idée, ouais. Donc,
Ok. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur justement ces trois modules ? Parce que j'imagine que s'il y en a trois, peut-être qu'il y a une temporalité, il y a une méthodologie qui est ou pas du tout, ils sont complètement distincts.
Alors ils sont distincts, mais ils peuvent être complémentaires aussi.
D'accord.
Donc ils sont interconnectables. Donc on a le premier module d'audit. On se base en fait sur la nouvelle directive CSRD et on digitalise en fait l'analyse de matérialité. Donc on va voir selon le secteur d'activité et la typologie d'entreprise qu'on accompagne, quel va être l'impact de l'entreprise sur son environnement, sur ses parties prenantes, mais également quels peuvent être en fait les impacts de l'environnement de l'entreprise sur l'entreprise elle-même. Donc d'accord. S'il y a une catastrophe naturelle, comment ça peut toucher et impacter négativement l'entreprise via ses chaînes d'approvisionnement, etc.
Mais c'est pas que son impact sur l'extérieur, c'est non. Comment elle aussi. C'est intéressant.
Voilà. Donc nous on digitalise ça et en fonction de cette première analyse, donc ça nous ça crée.
Mais vous avez créé un algorithme. Enfin vous.
Voilà,
avez,
en fait c'est basé sur des algorithmes. Okay. Ça crée une matrice. Qui permet à l'entreprise de visualiser les premiers objectifs qu'elle peut se fixer.
D'accord.
Et qui auraient de l'impact en fait. En fonction de ça, l'entreprise peut aussi choisir de se fixer d'autres objectifs qu'elle souhaite mettre en place. Et on élabore de manière automatisée une timeline, c'est-à-dire des objectifs disposés de manière temporelle que l'entreprise. D'accord. Donc ça lui donne un cadre en fait et un cheminement logique à suivre.
Donc là, l'audit. Des objectifs qu'ils peuvent atteindre.
Tout à fait.
Et après, c'est dans le même module ou c'est dans le module accompagnement, peut-être le plan d'action ?
Tout à fait. Donc ensuite, on passe au module accompagnement. Donc là, l'entreprise a un premier audit qui va lui permettre aussi de savoir un peu quel type d'action elle peut mettre en place. Mais si elle souhaite le faire de manière indépendante ou avec l'accompagnement de consultants, elle peut tout à fait le faire. Après, nous, on propose aussi via notre module accompagnement de pouvoir justement proposer de l'e-learning, des vidéos, des tutoriels. C'est vraiment sous forme de micro-apprentissage. L'entreprise peut consulter ça soit via la web app, soit sur sa mobile app, pour le côté un peu nomade, donc vraiment dans des formats courts, et qui vont l'accompagner justement pour l'aider à aller jusqu'au bout de ses objectifs. Et tout ça, en fait, chaque objectif que l'entreprise valide, elle sera amenée à justifier cet objectif en transmettant des pièces justificatives quand cela est nécessaire. Et nous, on attribue un score, en fait.
Et ça, vous le faites, vous, manuellement ?
Non.
Ou c'est l'outil, l'algorithme qui le fait ?
Tout à fait. C'est encore une fois l'outil. Donc, c'est aussi justement pour...
Donc, l'outil décrypte les documents et arrive à...
Voilà. Alors, les pièces justificatives, à ce stade, on le fait humainement.
D'accord.
Voilà. Okay.
Mais l'objectif, à terme, c'est un peu comme les outils comptables.
Tout à fait.
Faire en sorte qu'ils reconnaissent ce qu'il y a écrit.
C'est une problématique, effectivement, qu'on est en train de traiter. La vérification des pièces justificatives. Comment automatiser cela et,
sachant que ça arrivera quand vous aurez énormément de volume.
Voilà, tout à
pour
fait.
L'instant,
donc, pour l'instant, encore une fois, on y va par étapes.
Ah ouais. Okay. Donc, vous avez une roadmap déjà à 1 an, 2 ans, 3 ans sur les évolutions justement des modules que vous avez proposés ?
Alors oui, nous ce qu'on souhaite aussi, c'est encore une fois, on a vraiment les valeurs d'économie locale. Donc on veut vraiment créer un écosystème qui permette aux entreprises de pouvoir mener, tendre vers l'impact positif. Aider aussi les consultants à pouvoir accompagner ces entreprises, mais on a aussi, en discutant avec les entreprises, un nouveau besoin qui est le besoin de localiser des nouveaux partenaires pour l'entreprise, que ce soit des fournisseurs, des prestataires de services. Et donc, à terme, on souhaiterait mettre en place un outil de sourcing intelligent qui permettrait à l'entreprise de pouvoir trouver des fournisseurs, encore des prestataires proches de chez elle.
D'accord, mais donc du coup, plus qu'un annuaire, qui est une simple liste, entre guillemets, vous iriez mettre un avis ou une note sur ces...
Alors, ou bien ces prestataires peuvent aussi avoir des labels, et dans ce cas-là, ça vient certifier les matières qu'ils proposent, leur propre démarche. Et puis c'est ça, c'est de mettre en relation telle entreprise en fait, fait fait partie de tel secteur d'activité, a tel besoin, cherche telle fourniture. Mmh. On lui propose de manière automatisée des fournisseurs qui soient localisés près de chez elle au maximum, quoi. Donc,
Alors, on l'a dit tout à l'heure en intro, aujourd'hui, les TPE font face à des donneurs d'ordre qui sont de plus en plus exigeants sur, sur ces dimensions-là. Est-ce que vous, du coup, quand on utilise le module audit, ça nous permet d'obtenir une certification ou une note ou quelque chose qui permettrait de dire, bah, regardez déjà ce qu'on a fait.
Ouais. Alors nous, on va agir comme un tiers certificateur. Donc c'est vraiment ça, on va vérifier les documents.
D'accord.
Mettons une entreprise qui va communiquer sur son site internet certaines données 100% made in France. Et en fait, il n'y a rien qui prouve aux consommateurs ou aux parties prenantes que l'action est vraiment... que l'entreprise sort de la déclaration d'intention.
Oui, c'est déclaratif.
Exactement, c'est du déclaratif. Donc nous, on vient certifier après avoir justement reçu les documents justificatifs. On vient attester, crédibiliser la démarche et les actions de l'entreprise. Donc,
ok, écoute, voilà. Top. Avant d'aller sur la conclusion, puisqu'on est bientôt à la fin, tu disais qu'on veut proposer une solution qui est accessible aussi, donc financièrement, qui est personnalisée au plus grand nombre.
Ouais.
Comment tu résous cette équation? Parce que finalement, vous êtes sur un marché de volume, il faut faire du volume.
Exactement.
Comment vous allez faire pour justement engager en volume des entreprises?
Alors, ça va être, encore une fois, en créant des partenariats. On met en place aussi une prospection qui va être forcément focus. C'est pour ça aussi qu'on se tourne au départ vers un seul secteur d'activité.
Oui, vous allez pouvoir concentrer vos efforts et vos moyens.
Exactement. Et puis, faire nos preuves. Et puis, on se base aussi pas mal sur tout ce qui est les nouvelles réglementations. Donc, voilà, en répondant à un besoin. Et puis, on sait que voilà, les entreprises ont besoin d'accompagnement.
Oui, pour vous, pour le coup, si on reprend un peu les matrices SWOT avec les opportunités menaces, bon, opportunité en ce moment, c'est que c'est un sujet pour toutes les entreprises.
Ouais.
Si on reprend le PESTEL, le ELK et le légal, ben, en fait, aujourd'hui, vous avez quand même la législation qui va dans votre sens.
Exactement.
Donc, tout ça, c'est des éléments porteurs, en fait, pour votre marché, pour votre projet.
Puis on le voit là avec la nouvelle loi sur, contre la fast fashion aussi. Donc, des politiques qui vont aussi dans ce sens-là. Une politique de réindustrialisation en France donc qui permet aussi... Enfin, voilà, nous, on est... On essaye d'accompagner toutes ces politiques-là, et puis ces entreprises qui agissent aussi de plus en plus par conviction, quoi. Donc,
super. Voilà. Eh bien, écoute, on va suivre de près le projet. Avant de conclure, j'ai deux, trois dernières petites questions à te poser.
Okay.
Toi, maintenant qui as mis le pied dans l'entrepreneuriat, ça veut dire quoi pour toi, entreprendre ou être entrepreneur? Comment tu le définirais?
Alors là, c'est une question profonde. Comment je le définirais? Là, comme ça, je ne peux pas vraiment te dire. C'est avoir accès à la liberté, en fait. Je pense que c'est ça, tu en parlais tout à l'heure. Et être libre aussi de choisir de faire quelque chose qui soit en phase avec qui on est, avec les valeurs qu'on porte. Voilà. Donc,
Très bien. Bah, écoute, je prends. C'est ta définition. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Hein.
Ok, ça va.
Et toi qui as vécu l'expérience du podcast, comment tu as fait? Quel entrepreneur masculin ou féminin que tu connais et qui tu pourrais me mettre en relation, tu me recommanderais d'inviter?
Alors que je connais, là tout de suite, je te dirais une... tu la connais, moi je la connais pas. Est-ce que du coup je peux quand même
vas-y.
C'est quelqu'un qui m'inspire, c'est Julia Faure qui a créé la marque de vêtements Loom et en ce moment je la suis pas mal et c'est quelqu'un
qui t'inspire
énormément. Donc pour moi c'est ça me plairait de pouvoir l'écouter sur ton podcast quoi.
Le message est passé, on va essayer.
Et j'ai une seconde personne à te proposer, c'est Geoffroy qui a créé la marque De Glace. Qui est un de mes compagnons de route de Plug and Start et premier prix de ce concours et qui a créé un aspirateur modulaire pour lutter contre l'obsolescence programmée et qui est quelqu'un humainement extraordinaire et qui a un projet vraiment super. Donc je t'invite aussi à...
Écoute, ça m'intéresse.
Voilà.
On en parle après. Un mot de la fin. T'as envie de partager quoi aux entrepreneurs qui nous écoutent ou ceux qui voudraient se lancer?
Ce que je pourrais donner, alors c'est un conseil encore une fois à mon échelle avec mon expérience, mais c'est de s'entourer en fait je pense au plus tôt dans son projet parce que c'est ça qui a fait, qui nous a permis vraiment de faire évoluer les choses rapidement et d'aller plutôt dans le bon sens jusqu'à maintenant. Donc voilà un petit conseil que je pourrais donner et puis de rien lâcher, de persévérer quoi. Voilà.
Bah écoute, le message est passé. Un grand merci Gaëlle pour ton retour d'expérience, pour toutes celles et tous ceux qui voudraient suivre ton entreprise et ton aventure entrepreneuriale. Ils peuvent te retrouver sur LinkedIn ou sur le site web directement de Dodi, donc dodi.fr, dodee.fr. Je l'ai bien dit. Ravi de cette belle rencontre initiée par la Technopole de l'Aube en Champagne qui soutient cet épisode et qui, chaque année, au travers de son événement Plug and Start, on en a parlé, récompense et accélère des entrepreneurs. Pour plus d'infos, donc rendez-vous sur le site web officiel plugandstart.com. On fera apparaître le lien à l'écran. Et candidatez vite, pardon, pour tenter de gagner 3 à 6 mois sur l'avancée de votre projet et être accompagné par des chefs d'entreprise et des experts expérimentés. À très vite.
C'était Comment t'as fait, les rencontres d'entrepreneurs, le podcast pour comprendre comment celles et ceux qui entreprennent ont fait. À très vite pour de nouveaux épisodes.